Je vous propose de passer à la table ronde suivante. Donc, Louise Sauvé, Catherine Mongenet et Gérard Casanova. Et donc, j'excuse Mathilde Santana Atto, représentante permanente du Togo à l'UNESCO, qui n'a pas pu être parmi nous.
Bon, on va démarrer cette table ronde. Bonjour à tous. Je m'appelle Gérard Casanova, je suis donc de l'Université de Lorraine. Et nous allons commencer cette table ronde qui est dédiée à l'international. Donc on va démarrer par Louise Sauvé, qui est professeur à la Téléuniversité du Québec, qui va nous présenter une expérience sur son université du Québec, et en plus particulièrement sur une unité de recherche qui travaille sur la pédagogie et l'apprentissage. Ensuite, Catherine Mongenet, qui est vice-présidente de l'Université de Strasbourg, va nous parler de IOMED, donc l'origine d'IOMED, en quoi ça consiste, ses activités, les partenariats qui peuvent être noués, et peut-être faire aussi un appel à la salle. Dans un troisième temps, donc moi je vous présenterai quelques projets européens, au moins deux projets européens pour ce matin, dans lesquels sont impliqués ONEJ. Donc le premier projet, c'est ELearn to Learn, donc qui est un projet, j'en parlais tout à l'heure, et le deuxième projet qui s'appelle MEDEA 2020. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Louise Sauvé pour première présentation en international.
Alors écoutez, comme le contexte canadien est un peu différent du contexte européen ou du contexte français, donc je me suis permis de faire une petite rayure sur les UNT pour vous parler plus des URT, qui sont normalement des unités de recherche thématiques qui vont se regrouper pour justement rendre disponibles des ressources numériques sur des aspects particuliers. Mais avant, peut-être quelques chiffres des investissements au niveau canadien, particulièrement au Québec, puisque je viens du Québec. Nous avons eu un investissement en enseignement supérieur sur les technologies $1 milliard entre 2007 et 2012. Et tous les ans, au niveau du fédéral, il y a environ 350 millions qui sont investis dans la recherche collaborative, interinstitutionnelle et avec des retombées tangibles. Et ça, c'est vraiment une nouvelle tendance depuis autour de 2010, où les recherches financées, il faut effectivement qu'il y ait un regroupement assez important et que les résultats de cette recherche-là ne soient pas seulement des fondements théoriques, mais qu'il y ait une récupération technologique dans le milieu. Alors, ça vous donne un peu l'idée comment la recherche est en train d'être orientée vers des produits livrables et que tout le domaine, je dirais, plus théorique est en train d'avoir un peu de difficulté à être financé au niveau de la recherche. Par ailleurs, on sait tous qu'il y a un surinvestissement au niveau des États-Unis dans les TIC. Je dirais pas au niveau canadien, parce qu'on espérerait avoir plus d'investissements, même si le montant semble être important. Mais en même temps, on sait tous aussi qu'il y a un sous-investissement au niveau européen dans le développement des ressources numériques. Concrètement, nous, au Canada, ce qu'on retrouve qui serait un peu proche de l'idée de vos UNT, c'est l'Université virtuelle canadienne qui réunit beaucoup d'universités ensemble et dans l'idée d'offrir une formation en ligne aux Canadiens et Canadiennes, mais surtout aussi, parce que c'est en français et en anglais, avec cette idée de mondialisation et d'offrir une offre de formation rapide, parce que beaucoup d'universités sont impliquées pour des diplomations de premier, deuxième et troisième cycle. Alors, c'est une université en construction, même ça fait plusieurs années, parce que, comme vous savez, lorsqu'on réunit des universités, il y a beaucoup de négociations. Alors, et qui tourne beaucoup autour de toute la problématique des ressources numériques, du droit d'auteur, d'éthique, etc. Je voulais vous parler d'une idée de URT qu'il y a eu au Québec, qui était au départ une idée qui est devenue un projet commun. Ça avait pour objectif, parce que nos taux d'abandon des études universitaires varient entre 27 à 35 % que nous soyons un établissement universitaire traditionnel, à distance ou mixte. Donc, pour nous, c'est une réalité importante puisque par rapport, je ne sais pas, aux universités françaises. Nous sommes financés à chaque étudiant qui gravite dans nos universités. Donc, chaque étudiant qui quitte fait mal à l'institution. Pas tout simplement en termes économiques, mais en termes aussi sociétal, parce que souvent, il ne va pas se réinscrire à l'université. Donc, ça veut dire une main-d'œuvre moins qualifiée. Donc, ça devient extrêmement important de les soutenir pas juste au premier cycle, mais au deuxième et au troisième cycle, parce que vous savez que la main-d'œuvre hautement qualifiée, c'est le deuxième cycle. Et on s'aperçoit que le taux de perdition est encore plus important au deuxième et troisième cycle. Donc, on s'est réunis pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider cette clientèle. Nous avions un objectif quand même assez bas, selon nous tous, mais le gouvernement nous disait, pour nous, c'est même très élevé, de réduire à peu près de 5% les échecs et l'abandon, parce qu'on sait que l'échec et l'abandon s'expliquent par un certain nombre de conditions et nous croyons nous attaquer à peu près aux 5% des étudiants, donc à peu près 30 à 35% des conditions qui font en sorte que les étudiants vont abandonner. Ce qu'on a détecté aussi pour ces 5% d'échecs et d'abandon, il y a à peu près 130 difficultés que nous sommes tous mis d'accord que les étudiants rencontraient et qui faisaient obstacle à la réussite aux études. Et que dans ces difficultés-là, vous pouvez voir, il y en a de plusieurs ordres. Il y a soit de l'ordre académique ou personnel. Alors, au niveau de l'ordre académique, bon, c'est les stratégies d'apprentissage. Particulièrement, et je pense que hier, on en parlait, des problèmes de stratégie d'écoute et de lecture, des problèmes de production orale et écrite, des problèmes de gestion des ressources externes, gestion du temps. Des problèmes aussi de stratégie de gestion de l'attention, de la concentration. On parle beaucoup de mémorisation, on parle moins de compréhension, on parle moins de transfert. Aussi des problèmes de stratégie de la motivation, du stress, parce que ça fait en grande partie, certains de nos étudiants ont un stress très important. Vous savez qu'au Canada, 7% de nos étudiants se suicident suite au fait que se suicident ou ont des dépressions suite aux études. C'est énorme. Alors donc, il faut découvrir quels sont ces objets. Et vous pourriez être surpris en Europe, j'ai essayé de trouver, mais si on faisait la conciliation, il y a énormément d'étudiants qui ont de ce type de problème. Donc, on s'y attarde. Autre élément aussi qu'on constate, malgré qu'il y a une formation au niveau du secondaire et du collégial, il y a quand même des problèmes des préalables déficients, particulièrement en français et en mathématiques, ce qui fait que les étudiants ne performent pas plus que 2 sessions d'études. Alors, pour nous, c'est extrêmement important. Il y a des problèmes aussi d'intégration académique, auxquels plusieurs de nos étudiants, par exemple, la reconnaissance des acquis, particulièrement pour les adultes, ça les défavorise, démotive, croyant qu'ils ont une expérience. Cette expérience n'est pas reconnue. Il y a des problèmes, je vais rapidement, au niveau de l'état de la personne. Hier, je ne sais pas si je l'ai dit à des personnes ou en conférence, on a quand même 17% de nos étudiants qui ont des troubles d'apprentissage de type dyslexie, dysorthographie, je suis rendue bonne à le dire maintenant, dyscalculie, et aussi des troubles de déficit d'attention. On a également ce qu'on appelle les handicaps physiques, mais quand on regarde les handicaps liés à l'intellectuel, c'est quand même énorme comme population. Il y en a à peu près 9% qui ont déjà été diagnostiqués au primaire, secondaire, mais il y en a aussi à peu près 10% que nous dépistons maintenant à l'université, donc qui n'ont jamais été dépistés. Donc, c'est très important parce que, par exemple, une personne qui a un trouble de déficit d'attention peut investir jusqu'à 60 heures par semaine dans ses études pour arriver à avoir une moyenne d'à peu près 60 à 65 %. Si on règle son problème de déficit d'attention, il va investir en moyenne entre 12 et 15 heures pour exactement le même travail qu'il faisait avant, pour une moyenne entre 80 et 85 %. Vous pouvez voir un peu l'importance de détecter ce type de trouble, parce qu'en général, les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage et des troubles de déficit d'attention sont des étudiants extrêmement intelligents. Alors, si on les fait disparaître du système, on se perd presque 17 % de notre population. On regarde aussi les problèmes financiers familiaux parce qu'on sait que les jeunes commencent à travailler très tôt. Hier, on a parlé de conciliation famille-travail-études. Pour nous aussi, c'est une réalité importante parce que le jeune, dès la fin du secondaire, travaille déjà 15 heures semaine. Alors, imaginez lorsqu'il arrive à l'université à temps plein et qu'il est rendu à 30 heures semaine. Et ça commence à être beaucoup plus difficile pour avoir une persévérance et une rétention dans les études. Et enfin, l'intégration sociale, parce que souvent, on va quitter nos amis, on décide d'aller à une université qui est loin de la résidence. Donc, ça aussi va avoir un impact sur la personne. Donc, comment on fait pour leur permettre de faire une intégration sociale, soit avec les amis à l'université, refaire son réseau social, etc., social. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'avec le temps, nous avons réussi à travailler avec une vingtaine d'universités, de collèges et de centres de recherche. Et tout simplement, ce que nous avons fait, c'est une entente de partenariat dans lequel ça nous a permis d'obtenir un 3 millions de financement et 1 million qui est en cours d'acceptation actuellement. Et l'idée qui était derrière toute cette discussion n'était pas nécessairement que nous devions tous développer sur un même standard nos ressources numériques, mais c'était de mettre en place un dispositif en ligne intégrateur qui permettait à chaque université, collège et centre de recherche de développer leurs propres ressources numériques et tout simplement de favoriser cette intégration. C'est actuellement plus de 2000 ressources numériques qui sont gratuites, partagées, intégrées dans des cheminements multiples et en fonction des besoins des établissements. Donc, et ces ressources-là, c'est des ressources multimédia. Je pourrais rajouter les 6 000 ressources de plus textuelles, mais ce qu'on nous recherchions, parce qu'on veut rejoindre une population qui est quand même une population dite génération numérique, donc ça devenait extrêmement important d'avoir des ressources multimédia. Ces ressources ne devaient pas dépasser 10 minutes, parce qu'on sait qu'une habileté intellectuelle doit être pratiquée régulièrement, mais non pas en longueur. Donc, entre 10 et 15 minutes maximum, devait être très multimédiatisé, devait aussi, pour un même objet, avoir différentes façons de le présenter, tant du point de vue du traitement du contenu que du point de vue de la part multimédia. Donc, on a eu à peu près 2000 personnes, donc des chercheurs, des enseignants spécialisés dans leur domaine qui se sont impliqués dans le développement, et ça, de leur part, dans leur tâche. Donc, on n'a pas eu à les payer, parce que sinon, avec notre 3 millions, on n'aurait pas été très loin. Alors, ça a été surtout nos étudiants qui ont travaillé avec nous et qui ont développé ces ressources du point de vue médiatique, dont des ingénieurs en informatique, des étudiants en multimédia. Et depuis que le système est en ligne, c'est des milliers d'étudiants qui en profitent, qui s'inscrivent tout simplement à l'intérieur de leur institution. Il n'y a aucun frais à ce niveau-là. Et c'est aussi des ressources institutionnelles. Donc, chez nous, on a des centres d'aide, des bureaux ou des services d'aide à l'étudiant. Donc, c'est les professionnels de ces ressources qui s'impliquent et qui vont encadrer les étudiants parce que ce ne sont pas que des contenus en ligne. Il y a aussi une personne à l'écoute et qui peut répondre en tout temps à un étudiant, par exemple, en détresse. Nous avons des psychologues. Si un étudiant utilise le moyen de la visioconférence pour discuter, il peut ne pas être visible, il peut prendre un avatar, il peut expliquer son problème. Et on remarque que souvent, ces étudiants-là n'iront jamais dans un centre pour se faire identifier visuellement. Donc, ils vont utiliser ces moyens-là pour expliquer leur état de détresse, ce qui nous permet d'intervenir, ce qu'on ne peut plus ou moins faire normalement. Alors, l'idée était un peu ça. L'exemple qu'on a ici, c'est le dépistage du trouble du langage écrit. Donc, pour les étudiants qui n'ont jamais eu de diagnostic, on a mis au point, et ça, c'est par la collaboration d'une équipe de plusieurs universités qui ont travaillé à des tests de dépistage, parce que ça, il en existe très peu. Alors, on a mis au point un test de dépistage qui actuellement est expérimenté. On est rendu à plusieurs milliers d'étudiants et le niveau de validité, de fidélité est assez intéressant. Et on réalise effectivement que suite à ce test de dépistage, lorsqu'il passe à travers un processus de diagnostic. Vous savez, ça prend un an pour être diagnostiqué avec des tests très nombreux. Donc, en général, ils sont effectivement des personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, c'est des tests qui commencent à avoir beaucoup de poids en termes de dépistage. Au départ, on a développé un environnement de base qui était le dispositif intégrateur. Et à partir de ce dispositif, on a développé chaque institution, dont la mienne, parce que, bon, je suis aussi professeure à l'université, ont développé leur propre, ont remis en place leur propre système. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. Chacun a leur couleur, leur identité. C'était très important on puisse, chaque université puisse utiliser ce que les autres font, mais en même temps donne sa couleur, sa particularité, mais pas juste visuelle, en termes de contenu aussi. Comme on offre beaucoup de cheminements aux étudiants divers, donc les universités pouvaient choisir, pouvaient même ajouter des cheminements, ce qui a été extrêmement intéressant parce que la force vive a permis de vraiment diversifier et vraiment de personnaliser aux étudiants. Là, on arrive dans notre personnalisation. Et voilà, donc c'est les deux systèmes qui a été mis en place et qui est réutilisé par les institutions dans à l'intérieur de leurs environnements, dont un qui touche plus la persévérance très large et un deuxième système qui travaille vraiment auprès des étudiants qui ont des troubles d'apprentissage ou des troubles de déficit d'attention et qui va mettre à la disposition, parce que le même objet, ce qui était très intéressant, c'est que la même ressource numérique qui est faite pour un étudiant qui n'a pas ce type de trouble a tout simplement été retravaillée en fonction des étudiants qui, par exemple, ont des problèmes d'attention, donc des indicateurs sonores pour remettre l'attention, etc. Mais ça nous a pas obligés à retravailler les contenus, mais vraiment le type de présentation de ces contenus-là. Donc, on pourrait dire que sur les 2000 que nous avons réguliers, on a maintenant 2000 en lien avec les troubles d'apprentissage, donc pour mieux répondre aux étudiants. Alors, voilà. Donc, ça a été notre expérience au Canada. Il y a d'autres types de thématiques qui sont également développées. Par exemple, pour la formation des maîtres, il y a eu aussi une autre unité qui s'est mise en place, là, c'est des expériences de mémoire, qui permettent également de faire la formation des maîtres à la formation en ligne. Alors, nous, on a une réalité au Québec où les technologies se sont inscrites dans les écoles, mais il n'y a pas eu de formation des enseignants en exercice. Alors, il y a eu vraiment une espèce de dichotomie et de détresse de ces enseignants-là. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les universités sont mises ensemble et on a développé aussi des ressources numériques pour habiliter nos enseignants, non pas du point de vue juste technologique, mais vraiment du point de vue de transférer leurs compétences. Par exemple, je sais enseigner en classe et je sais faire de la gestion de conflits en classe. Maintenant, je me retrouve avec un outil de visioconférence et de travail collaboratif avec une cinquantaine d'étudiants qui interagissent avec moi. Comment je vais maintenant gérer un conflit qui peut se produire lorsque je n'ai pas nécessairement un étudiant auquel je peux dire bon, on va régler ça à l'extérieur. Alors, donc, il faut mettre à leur disposition un certain nombre d'outils et de compétences. Donc, comment adapter leurs compétences à l'utilisation de ces technologies. Alors, il y a comme ça plusieurs thématiques en développement, dont des programmes complets d'indexation en ontologie, des universités qui sont mises ensemble pour développer des ontologies afin de favoriser, justement, l'utilisation des ressources numériques. Je pourrais vous en nommer beaucoup comme ça, mais je pense que c'est un bon début.
Merci, Louise Sauvé, pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'on va peut-être faire un échange avec la salle, hein, quelques questions, et puis on passera ensuite à la présentation suivante. Alors, je vais laisser peut-être la parole à la salle si vous avez des questions. En tout cas, moi, j'en ai une au moins.
Bonjour, Thierry Michel Isoard, je suis un néophyte. J'ai travaillé pour la première fois avec Denis Abécassis sur un module, donc je connais très très peu de choses, sans doute par rapport à vous. Donc ma question sera peut-être un petit peu simpliste. Quand vous parlez de multimédiatisation, non, première question, c'est sur ce que vous avez fait pour l'Université du Québec, sur la dernière partie dont vous avez parlé, c'était quel type de sujet? Est-ce que c'était toujours, ça avait toujours trait à l'apprentissage ou c'était des modules sur, par exemple, qu'est-ce que le marketing en 10 minutes ou qu'est-ce que la finance en 10 minutes? Donc, quelle était la thématique?
Le prochain million, ça va sur des sur à la fois des compétences intellectuelles, sur des thématiques, sur des contenus particuliers. Par exemple, on est en train de travailler dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la finance et tout ça, et on s'est aperçu qu'il y a des stratégies d'apprentissage de type explicitation qui sont pas suffisamment développées chez les étudiants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, dans le fond, un certain nombre de nos stratégies d'apprentissage et on va les réinvestir, mais cette fois-ci avec des exemples très concrets dans des matières particulières pour développer cette compétence. Ce qu'on a particulièrement fait actuellement, ce sont surtout des outils de stratégie d'apprentissage, sans nécessairement avoir une connotation dans la matière, il y en a toujours, mais c'est vraiment pour développer l'habilité en soi. Par exemple, l'écoute, il y a des façons d'écouter, donc comment on le fait, c'est sûr que la matière qu'on va donner à la personne va soit être en français, en anthropologie, en philosophie, mais c'est beaucoup plus axé sur la pratique elle-même du développement de la stratégie que de la matière. Mais ça reste qu'on remarque que les enseignants, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent certains de ces outils-là qu'ils intègrent directement dans leurs cours. Et à ce moment-là, ça permet, ils enlèvent les exemples, ils mettent les exemples de leurs cours. Donc, ça permet de pratiquer très facilement ces stratégies-là et de les réinvestir directement dans le cours. C'est un peu l'avantage d'avoir granularisé ces objets et qu'ils peuvent être facilement adaptables.
Moi, j'avais une question sur... les difficultés que vous avez recensées pour l'apprentissage des étudiants, vous m'avez dit qu'il y en avait combien ? 130, c'est ça ? 130 ? Alors, la première question, c'est un peu comment vous avez recensé ? C'est par rapport à votre expérience personnelle ? C'est un brainstorming ? Enfin, et la deuxième, et après, est-ce que vous avez classé par ordre d'importance ces difficultés ? Parce que quand on liste un certain nombre de difficultés, on va essayer de travailler sur celles qui ont plus d'effets et essayer d'éliminer celles qui ont plus d'effets.
C'est une analyse qui se fait depuis plusieurs années et ça se fait avec, pour les difficultés, ça se fait avec les étudiants. Donc, ce sont des enquêtes que nous avons faites de façon systématique à travers le Canada. Nous avons interviewé les étudiants qui abandonnaient sur les difficultés qu'ils rencontraient. Donc, on a pu établir à peu près 130 difficultés. On les a aussi établis selon les sessions d'études, mais malgré qu'on les a établis selon les sessions d'études en termes de priorité, l'étudiant a toujours accès à l'ensemble des difficultés. C'est lui qui fait son propre cheminement. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les 130 difficultés sont là, mais il n'est pas obligé de passer à travers. Je pourrais vous montrer le système. Donc, l'étudiant va aller vers les difficultés qui le concernent, la catégorie de difficultés qui le concernent. Et on a différents cheminements. Donc, l'étudiant... On le voit parce que maintenant, on a fait une expérimentation depuis les deux dernières années où tous les traces sur son cheminement, ce que les étudiants font, les difficultés rencontrées, les outils qu'ils ont utilisés, lesquels sont les plus appréciés, les outils ont été évalués par les étudiants et tout. Et on s'aperçoit que les 130 difficultés sont présentes. Naturellement, il y en a plus prioritaires à la première session, d'autres à la deuxième. La littérature nous dit, par exemple, que les problèmes financiers chez les étudiants, c'est la première session. Beaucoup de projets semblaient indiquer. Alors, nous, depuis deux ans, ce qu'on s'aperçoit, ce n'est pas à la première, mais c'est à la deuxième et la troisième. Donc, les étudiants, ils vont dans cette catégorie-là à la deuxième session parce que on a des traces vraiment identifiées à chaque moment que l'étudiant solliciter le système. Alors, donc, on commence, le rapport va sortir, on est en train de faire les analyses, là, actuellement, sur plus de, je sais plus combien de milliers d'étudiants. Donc, on est en train de sortir les analyses pour voir s'il y a des courbes ou s'il y a des tendances lourdes qui nous permettrait d'avoir ce qu'on appelle, nous, un procédurier plus précis pour certains étudiants. Alors, parce qu'on leur offre à la fois une approche multimédia. Donc, un étudiant qui rentre, il va rentrer dans un village, puis il va rencontrer des gens qui ont des difficultés, puis les gens vont leur parler de leurs difficultés. Puis selon la difficulté qui les touche, ils vont rentrer de façon, comme on dit, dans le restaurant, on va rencontrer des gens, etc. Ça, on a une première démarche comme ça. On a une deuxième démarche qui est un petit peu plus statique, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement utiliser ça. Donc, on offre une autre démarche, où là, maintenant, c'est plus par des points précis ou des idées qu'on a, donc une carte, ce qu'on appelle des cartes conceptuelles. Alors, l'étudiant, avec une seule idée, peut aussi naviguer dans l'environnement et aller chercher l'outil qu'il a besoin. Ou la dernière démarche, ben j'ai des difficultés, mais je sais pas trop comment. Et là, oui, on a ces 130 difficultés, mais toujours recatégorisé. Donc, l'étudiant n'a pas à faire des démarches très longues pour trouver son outil, son objet, pouvoir échanger avec une personne ressource. On a voulu beaucoup, nous, on est du principe du un clic maximum. C'est sûr qu'ils en font plus qu'un. Mais si l'étudiant peut arriver à trouver l'outil qui va faire en sorte qu'il va persévérer à l'intérieur d'un minimum de clics, ça veut dire que cet étudiant-là, surtout s'il a 25 ans et moins, ça veut dire qu'il risque de l'utiliser. Et c'est ce qui se produit en général. On peut même voir combien de temps l'étudiant a investi. Donc, on voit que, et eux-mêmes nous disent, parce qu'à la fin de chaque outil, il y a un tout petit outil d'évaluation de 30 secondes, et eux-mêmes vont nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils auraient aimé avoir de plus et tout. Alors, donc, ça nous permet de revenir sur chacun des outils, enfin, pas tous, là, quelques-uns des outils. Par exemple, à un moment donné, on avait des vidéos qui avaient 3 minutes. Puis moi, je disais, oh, 3 minutes, je ne sais pas si c'est bon. Est-ce qu'on devrait réduire? Les étudiants, ils ont dit, oui, c'est intéressant, mais si j'avais, chez moi-même, je pouvais mettre un traceur dans la vidéo pour les points importants que je veux retenir parce que je suis intéressée, est-ce que je peux le faire? Alors, on développait un petit outil pour développer le traceur, pour faire en sorte que l'étudiant, maintenant, puisse identifier ses propres traces. Alors, les étudiants ont beaucoup apprécié. Les autres outils qui sont venus, ben, on est monté des fois jusqu'à 4 minutes le vidéo ou 5 minutes, mais ça permettait à l'étudiant de faire ses traces. Alors, voyez-vous, il y a plein de choses comme ça qu'on a eues de la part des étudiants qui nous a permis de faire aussi évoluer nos ressources numériques et de les rendre beaucoup plus proches de la clientèle et de leur façon de percevoir ces objets-là ou ces ressources-là. Oui, l'idée, c'était vraiment, on a vraiment beaucoup respecté tous les critères ergonomiques. Pour nous, c'était extrêmement important parce qu'on dit dès le départ, un étudiant, s'il veut abandonner, puis si en plus c'est compliqué pour trouver, on l'aide pas du tout. C'est comme les étudiants qui ont des difficultés de lecture, puis que la seule chose qu'on leur offre, c'est des textes pour régler leurs problèmes de lecture. Alors là, on a un problème. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de lui offrir, comme tout le site, il est sonore. Donc, un étudiant qui rentre, s'il n'a pas envie de lire, il peut tout écouter. Alors ça, c'était une préoccupation que nous avions parce qu'on disait, il y a des étudiants qui aime peut-être pas lire, mais on lui donne le goût de lire en lui donnant d'autres moyens pour apprendre à lire. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions. Ça fait quand même pas mal d'années que les gens y travaillent, là. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus et beaucoup de rétroactions de nos étudiants.
Oui, c'est un exemple extrêmement intéressant et très riche avec un énorme travail d'identification de toutes les causes et de toutes les difficultés que rencontrent les étudiants. Moi, j'avais une question plus générale de transmission et d'utilisation en France éventuellement de ce travail. Parce que nous avons aussi, bien sûr, des étudiants en difficulté, des étudiants, des problèmes de réussite, de taux d'échec important. Et alors, on n'a peut-être pas les mêmes chiffres, mais on n'a pas 7% d'étudiants, à ma connaissance, qui se suicident ou qui ont des troubles de type... problème de comportement, problème psychique, je pense que c'est moins que ça, mais on en a aussi. Donc la question que je me posais, c'était, pensez-vous qu'il pourrait être possible de travailler ensemble? Vous avez travaillé à 20 universités, peut-être qu'avec ONEJ et avec d'autres UNT françaises, on pourrait travailler ensemble et bénéficier de tout votre travail antérieur pour pouvoir faire un pas en dans la réussite des étudiants.
Tout à fait, parce que chaque collège que je rajoute, ils bénéficient du travail qui est là, et ils apportent de nouveaux contenus. C'est un peu l'idée qui est derrière, là. C'est comme tout développement que nous faisons. Oui, tout à fait. Et si on peut, on sait qu'il y a plusieurs universités parce qu'on a différentes choses. On a un répertoire qui est juste les objets. Et on sait qu'il y a beaucoup d'universités françaises qui l'utilisent parce que bon, tout simplement, ils vont identifier quelque part leur nom. Donc, on sait qu'il y a des universités. Là, je pourrais même les ressortir. Faudrait, j'allais voir les traces. Mais on sait que c'est utilisé. Le mécanisme lui-même, oui, parce que c'est là. Et nous, l'intérêt aussi d'être utilisé, c'est qu'il y a d'autres regards. Et ces autres regards nous apportent des cheminements différents, des procédures différentes. Et c'est important parce qu'on a aussi des étudiants français au Québec. Donc, le fait de travailler avec d'autres groupes, au contraire, ça ne peut être que bénéfique. Alors, oui, c'est là. Et l'objectif, c'est d'être le plus utilisé possible. On travaille avec l'Ontario, on travaille avec la Colombie-Britannique francophone. Et eux adaptent en fonction de leurs besoins parce que, bon, les francophones en Colombie-Britannique, c'est pas les francophones au Québec. Ils ont pas la même, bon, au niveau du langage, au niveau... Il y a des particularités. Donc, de pouvoir adapter en fonction des particularités, là, ça devient intéressant. Et c'est là où on a une bonne pénétration parce que les gens qui l'utilisent connaissent bien leur population. Alors, oui, au contraire, là, si ça nous fera très plaisir, c'est là. Et pourquoi pas, c'est le plus utilisé le plus possible, c'est l'objectif que nous avons.
Oui, ma question va un peu dans le sens de celle de Denis, et elle est double. C'est en rapport avec les valeurs annoncées, aux alentours de 30% d'abandon d'études, d'une part, et d'autre part, 7% de suicides. Deux valeurs qui ont été annoncées un peu fortes. Est-ce que vous avez quelques éléments sur les causes de ces, d'une part abandon et d'autre part suicide?
Ben, les causes, c'est un peu, on expliquait que il y a une partie où on ne peut pas vraiment travailler dessus, tout simplement, on change de programme. Alors, pour nous, c'est pas un réel abandon. Certaines universités considèrent que c'est un réel abandon. Nous, on dit, ce n'est pas un réel abandon, mais c'est une perte pour la personne. Parce que le temps qu'elle a... Ben, c'est une perte, puis... Oui et non. Mais pour certaines personnes, de changer de programme, souvent, au bout de 2 sessions, ils vont abandonner. Le changement de programme les rend un peu plus insécures. Ils ont eu l'impression qu'ils n'ont pas fait le meilleur choix possible de carrière ou de métier. Ils s'investissent dans un deuxième programme, la réussite n'est pas au rendez-vous et ils vont quitter. Alors donc, un mauvais choix, et nous, on a des difficultés de ce côté-là, un mauvais choix de programme, un cheminement plus ou moins bien structuré va faire en sorte qu'à un moment donné, on va s'attaquer à cette situation. On sait que ce qui est relevé à la personne, si on regarde le 25% d'abandon et le 27% d'abandon, puis on le met 100%. On sait qu'il y a à peu près entre 20 et 25 % qu'on ne peut pas agir comme tel, parce que c'est relié à des faits complètement externes. On sait qu'il y a à peu près entre 30 et 40 % qui sont liés à l'aspect académique. Donc, ça, on peut y toucher. Ça, on peut agir là-dessus. Et on sait qu'il y en a le reste qui est lié à la personne. Donc, les problèmes de troubles d'apprentissage, les problèmes de détresse. Et ça aussi, là, on peut agir, on peut pallier, on peut accommoder, on peut peut-être pas régler. Mais on peut suffisamment pallier pour faire en sorte que l'étudiant va rester dans le système, va se former et va avoir un meilleur métier. On avait comme statistique que sur les 17 % des étudiants qui s'inscrivent en troubles d'apprentissage, il y en aura que 7 % non pas 7, c'était 5, quelque chose, qui vont rester, qui vont se diplômer. C'est énorme en termes de perte de ces étudiants-là, qui sont des étudiants très intelligents. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir? Et à partir du moment qu'on a mis les processus en place, par exemple, au primaire, secondaire, maintenant, c'est mis en place, les étudiants vont persister d'un niveau d'enseignement à un autre. Et on a des personnes au niveau de la société intéressantes. Mais si vous regardiez vraiment vos statistiques, je pense que vous seriez étonné de voir le taux d'abandon de vos étudiants. Je pense que ça doit être similaire. C'est assez mondial comme phénomène, là. Au niveau de la détresse, si vous creusiez un peu, je pense que c'est assez mondial aussi. À votre question sur la détresse, écoutez, un étudiant qui suit échec par échec, qui a un problème familial, par exemple, mère de famille monoparentale, qui maintenant demeure loin de sa famille, donc n'a plus d'aide de sa famille pour venir à l'université, a des difficultés de garderie, vous allez dire, c'est complètement à l'extérieur, a des problèmes financiers, excellente étudiante, elle n'y arrive plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle abandonne. Alors, voyez-vous, c'est pas nécessairement lié à la qualité de l'enseignement, c'est pas nécessairement lié à sa personnalité, c'est lié au contexte qui va faire que la personne va abandonner. Et particulièrement, cette personne-là a eu un enfant, a quitté, n'a pas tout de suite passé du collégial à l'université, donc a eu un temps mort. Il va avoir beaucoup d'éléments sur la perception de soi. Donc, si on est capable de lui faciliter ses conditions, parce qu'elle ne sait pas qu'à l'université, elle peut avoir de l'aide pour la garderie, si elle ne sait pas ça et que ça dure une session, écoutez, on a des cas où la personne n'a même pas le moyen de locomotion pour se rendre à l'université, donc, et elle a un bébé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez-vous, c'est des détails, mais pour une femme qui a ces conditions-là, c'est susceptible d'abandonner. Alors, nous, on sait maintenant qu'il y a un certain nombre de variables, que s'ils sont mis ensemble, la personne, soit un homme ou une femme, parce qu'il y a des hommes monoparentales aussi, qu'il y aura sûrement un abandon. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est un peu dans ce sens-là où on examine l'ensemble.
Oui, mais je crois qu'on va peut-être passer à la seconde conférencière. Donc, Catherine Mongenet.
Bonjour à tous. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'IOMED. IOMED, c'est l'acronyme pour Espace ouvert pour la Méditerranée. IOMED, c'est une idée qui est née dans la tête de quelques visionnaires il y a quelques années, je dirais autour des années 2007-2008. Vous avez sans doute les uns et les autres, certains d'entre vous en tout cas, contribué à cette vision, mais les deux personnes qui ont vraiment porté IOMED sur les fonds baptismaux sont d'une part Gilbert Touzeau, qui est le président d'UNIT, et d'autre part Abdelfadil Benani, qui était à l'époque président de l'université d'Agadir au Maroc. Ces deux collègues se sont rencontrés, ont travaillé ensemble. Le travail autour des UNT a beaucoup séduit notre collègue marocain. Il y a une initiative d'université virtuelle qui existait au Maroc, il y en a une autre en Tunisie. Et ces acteurs-là se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour du bassin de la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'est né le projet de construction d'une association qui fédère des acteurs de l'enseignement supérieur autour du pourtour de la Méditerranée, autour du numérique et de l'enseignement supérieur. Le premier acte a été une conférence inaugurale qui a eu lieu à Agadir en 2009, et je présume que certains d'entre vous y étaient, qui a commencé à construire ce que pourrait être le projet IOMED. Il y a eu tout un travail en 2010 qui s'est concrétisé par l'élaboration de statuts pour cette association. Et donc l'association est née véritablement lors de la conférence générale, l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu l'année dernière en janvier à Toulon. Donc je sais que certains d'entre vous y étaient. Les établissements d'enseignement supérieur de part et d'autre de la Méditerranée avaient été sollicités pour participer, pour être membres de cette association. 70 établissements ont indiqué qu'ils souhaitaient être membres de cette association. À ce jour, tous n'ont pas véritablement concrétisé par une adhésion formelle leur association, mais je pense que ça va se régulariser au fil des mois qui viennent. Les adhérents de l'association IOMED aujourd'hui, ce sont toutes les UNT françaises. Et l'adhésion des UNT s'est faite avec un très fort soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la SDTIS à l'époque, de ce qui est la MINES aujourd'hui, laquelle SDTIS a financé IOMED avant même d'ailleurs sa création véritable, pour permettre la tenue de la conférence inaugurale à Agadir et puis le démarrage de l'association. Et aujourd'hui, IOMED, du point de vue de l'université, des universités françaises et de l'État français, est une association qui est soutenue par la MINES au même titre que les UNT et les UNR sont soutenues. Et nous avons obtenu une subvention l'année dernière, en même temps que les UNR et les UNT ont reçu leur subvention. Voilà. Alors, au niveau du périmètre d'IOMED en termes d'établissement, donc en France, toutes les UNT, un certain nombre d'universités, des groupements d'écoles, le groupement des écoles télécom, le groupement des INSA, le groupement des écoles des mines, l'association des directeurs d'IUT, qui est porteur d'IUT en ligne, qui est en quelque sorte la 8e UNT française. Au niveau italien, l'Université ouverte d'Italie. Les Espagnols sont aussi présents dans IOMED avec l'Université ouverte de Catalogne. Il y a une université grecque qui avait déclaré vouloir être membre d'IOMED, mais qui pour l'instant n'a pas concrétisé son adhésion. Trois universités libanaises, des universités marocaines en nombre important, des universités tunisiennes qui pour l'instant ont des difficultés de paiement pour des tas de raisons que vous comprenez bien vu la situation politique depuis l'année dernière. Et en particulier donc au niveau de la Tunisie, l'adhésion et l'implication très forte de l'UVT, l'Université virtuelle de Tunis, et des universités en Algérie également, ainsi que deux institutions mauritaniennes l'université de Nouakchott et une institution d'enseignement supérieur à Nouakchott également. Voilà. Donc ça, c'est pour vous décrire l'organisation d'IOMED, ou tout au moins son périmètre. Donc en janvier 2011, les statuts ont été votés, le règlement intérieur a été voté et ont été élus les membres de ce qu'on appelle le comité exécutif, qui est le conseil d'administration de cette structure. Donc ce comité exécutif est composé de 17 membres issus des différents pays, et les statuts prévoyaient une représentation maximale d'un certain pays pour permettre la représentation de l'ensemble des pays. L'année dernière, donc, ont été procédés à Toulon à l'élection du président. Donc Abdelfadil Benani a été élu président de l'association. Le vice-président délégué est Jean-Claude Duriez, qui était à l'époque directeur de l'école des mines de Douai. Et puis les membres du conseil exécutif ont été élus. Lorsque la première réunion de ce conseil exécutif a eu lieu l'année dernière au printemps, ont été élus au sein de ce conseil un certain nombre de vice-présidents sur certaines missions, et j'ai été élue déléguée générale de cette association. Et c'est à ce titre-là que je vous parle aujourd'hui. Voilà. Alors, les objectifs d'IOMED. Partager les bonnes pratiques, mutualiser des connaissances, des compétences, mutualiser des formations pour les enseignants, pour les équipes pédagogiques, pour les équipes des services TIS de part et d'autre de la Méditerranée. Construire ensemble des enseignements, des modules, des ressources, avec l'ambition à terme peut-être d'être capable de construire des formations cohabilitées nord-sud. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vit IOMED et qu'est-ce qui fait qu'il se passe des choses dans IOMED ? Le cœur de l'activité d'IOMED est concentré autour de ce qu'on appelle les communautés thématiques. Et ce que j'ai sur ma présentation, c'est juste la liste des communautés thématiques que je voudrais vous présenter et puis vous illustrer pour que vous puissiez voir dans quelle communauté thématique IOMED pourrait s'investir, ou vos établissements, indépendamment d'IOMED, les communautés thématiques. Donc ces communautés thématiques, elles ont été créées au cours de l'année 2011. Certaines existaient déjà parce qu'il y avait des relations qui existaient entre un certain nombre de partenaires d'IOMED en 2010. L'ordre est... ne prenez aucun ombrage de l'ordre. Il est lié à la manière dont on avait présenté ces communautés il n'y a pas très longtemps à des collègues tunisiens. La première communauté thématique, environnement et développement durable, c'est une communauté thématique dans laquelle l'UNT UVED a été un acteur vraiment très fort. Le responsable de cette communauté thématique est un collègue de Nancy, Samuel Novakovski, et ils se sont réunis dès l'année dernière à Montpellier pour commencer à construire des projets communs. Donc ce sont les collègues de Nancy autour de Samuel qui pilotent la plateforme collaborative qui a été mise en place et qui permet aux acteurs de cette communauté de travailler ensemble. Et évidemment, il y a déjà tout un partage autour des ressources numériques en environnement et développement durable qui sont produites par ONEJ, par UVED, pardon. Donc, la deuxième communauté thématique est une communauté thématique en pédagogie numérique et ingénierie qui est animée par un collègue de Rabat qui s'appelle donc Monsieur Boukamel, et ils ont tenu à Rabat au mois de mai, évidemment tous les mois qui apparaissent là sont de l'année 2011, une première réunion à laquelle un certain nombre de collègues, en particulier d'écoles d'ingénieurs françaises, ont assisté. La communauté thématique suivante s'appelle TéléTP. L'idée, TéléTP, c'est un drôle de mot, qui recouvre le fait que on peut faire des TP virtuels. Et donc, on a des collègues à l'INRIA, dans les membres d'IOMED. J'ai oublié de vous dire que l'INRIA était membre d'IOMED. Et Didier Notterman, qui est à l'INSA de Lyon, qui travaille avec des collègues de l'INRIA, a développé à l'INSA de Lyon et pour un certain nombre d'autres écoles d'ingénieurs essentiellement, une plateforme et des outils autour de ces TP virtuels. Et donc, il avait déjà initié des collaborations, en particulier avec des collègues marocains, avant même l'existence d'IOMED. Et donc, IOMED a été pour ces acteurs-là l'occasion de se regrouper au sein de cette communauté thématique pour travailler et construire ensemble et faire progresser ces outils autour des TP virtuels. Et donc, ils se sont réunis à Rabat. Et ce qui ne figure pas sur ce transparent, c'est que Didier Notterman a accueilli à Lyon des collègues essentiellement marocains qui sont allés se former à ces outils pour pouvoir les utiliser dans les écoles d'ingénieurs marocaines. La communauté thématique suivante concerne tout ce qui touche à l'innovation pédagogique et technologique. Les outils pour le numérique, donc elle est co-animée par une collègue marocaine, Bouchra Berada, et par une collègue de l'UTC qui est Céline Bure. Et donc, cette communauté thématique, elle a été portée sur les fonds baptismaux d'IOMED, mais elle est forte de coopération qui existait avant même la création d'IOMED en 2009-2010, entre le Nord et le Sud, en particulier entre la France et le Maroc, autour de formations sur Scénari, sur Ori OAI. Et donc, il y a une activité qui est relativement importante. Et comme vous le voyez, il y a eu une nouvelle formation Scénari qui avait été organisée à Fès l'année dernière, sachant qu'il y en avait eu déjà en 2010. Donc en septembre l'année dernière à Fès, un certain nombre de collègues marocains tunisiens sont venus se former à Scénari. La communauté suivante, qu'on a appelée premier cycle méditerranéen, vous l'aurez peut-être compris, est la communauté thématique à l'initiative d'Uniciel. Et c'est Monique Vindevogel qui est responsable de cette communauté thématique. Monique qui était jusqu'à peu responsable d'Uniciel, qui est donc l'université numérique thématique française en sciences. Les relations sont relativement solides entre Uniciel et un certain nombre d'acteurs du Sud. Une première réunion de cette communauté thématique a eu lieu à Fès au mois de septembre, auquel ont participé aussi des collègues marocains et tunisiens. Et ça a été l'occasion pour Uniciel de montrer la richesse des ressources pédagogiques et l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs du Sud pour s'intéresser à ces ressources-là. La suivante, vous la reconnaîtrez aussi, elle concerne les ressources numériques pour l'enseignement de la technologie au niveau L. Et c'est donc la communauté thématique qui est animée par Serge Paronneau. Serge Paronneau est le directeur de IUT en ligne, qui est donc ce que je décrivais comme la 8e UNT tout à l'heure. Donc là aussi, évidemment, une UNT française qui a produit beaucoup de ressources et qui a de toute façon déjà développé depuis 2005-2006 des relations très fortes avec l'équivalent des IUT marocains et tunisiens. Et donc, IOMED a été l'occasion là aussi de mettre ensemble tous ces acteurs et de redonner du dynamisme à leurs échanges et de les structurer dans un environnement où on peut leur permettre de faciliter les rencontres, faciliter les déplacements, faciliter les projets communs. Voilà. Donc, cette communauté, bien que je n'ai rien écrit, cette communauté est fort active. Et si je n'ai rien écrit, c'est parce que ça, c'était le bilan de l'année 2011. Et donc, en 2012, début de cette année, nous avons organisé, IOMED a organisé une visite à Tunis. On a été accueillis par l'UVT et tous les collègues tunisiens, ils étaient relativement nombreux, il y avait une cinquantaine de collègues qui étaient là, avaient été invités par l'UVT pour venir découvrir IOMED. Et donc, on en a profité pour faire une présentation des communautés thématiques. Et donc, Serge Paronneau, Monique et la plupart des autres acteurs que vous voyez sur ces transparents étaient présents. Et il y a eu toute une demi-journée de travail autour de, en particulier, des deux communautés thématiques qui sont là, premier cycle méditerranéen et puis ressources pour la technologie. Et d'ores et déjà sont planifiées deux sessions de formation autour des ressources pour la technologie qui vont avoir lieu en Tunisie pour les équivalents des IUT tunisiens dans 15 jours ou 3 semaines. Voilà. La communauté thématique géomatique est une communauté qui fédère essentiellement Pascal Barbier et son institution parisienne et des collègues du Maroc autour de l'École des travaux publics et qui vise à développer des contenus dans le domaine de la géomatique et en particulier des contenus qui soient complètement à distance. Et là, il y a un projet qui est actuellement financé pour construire des ressources dans le domaine de la géomatique, construire ensemble pour le coup, donc vraiment des ressources partenariales. Et c'est un gros projet qui est financé par IOMED financé également à travers la subvention que la MINES nous a accordée. Donc un projet qui nous tient fort à cœur. La communauté thématique suivante, Histoire de la Méditerranée, pardon pour la petite coquille, c'est une communauté thématique qui regroupe des historiens du Nord et du Sud qui ont commencé à travailler ensemble dès 2010 et qui ont profité d'IOMED pour véritablement se structurer. Et l'animation de cette communauté thématique est au Mans. Elle est faite par un historien qui s'appelle Dominique Avon et Nicolas Postec, qui est un collègue plutôt tourné vers le numérique et les TICE, qui accompagne sur un mode plus opérationnel cette communauté thématique. Ils se sont réunis en 2010, ils se sont réunis en 2011, ils vont à nouveau se réunir en 2012. Il y a dans cette communauté thématique des Français, des Marocains, des Libanais, un Suisse ou deux. Ils travaillent sur la construction ensemble de modules d'enseignement autour de l'histoire du bassin méditerranéen. Et ils ont sorti d'ores et déjà un premier module autour de l'histoire des migrations religieuses dans le bassin méditerranéen. IOMED est très intéressé évidemment par ce projet. La réalisation du module avait été faite en français et nous avons considéré au niveau du comité exécutif d'IOMED qu'il y avait là une ressource vraiment fort intéressante qui méritait d'être multilingue et donc nous avons à travers IOMED financé la traduction de cette ressource en anglais et en arabe et la traduction anglaise est déjà en ligne. La traduction arabe est en cours et donc c'est à travers cette communauté thématique-là et ce tout premier module qu'on a véritablement d'ores et déjà la première concrétisation d'un module d'enseignement, d'une ressource pédagogique construite ensemble. Et je vous laisse imaginer combien les réunions de travail scientifiques de ces collègues historiens pour arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on allait raconter, synthétiser de l'histoire des migrations religieuses autour du bassin méditerranéen n'a pas dû être simple. Donc c'est vraiment un résultat tout à fait significatif. Et donc c'est bien une ressource qui a été faite ensemble et IOMED a considéré qu'il était vraiment important que cette ressource soit disponible dans plusieurs langues et en particulier naturellement en arabe. Les trois dernières communautés thématiques, entrepreneuriat et innovation, c'est une communauté thématique qui est dans laquelle d'ailleurs probablement Onège aurait des choses à faire et à dire. Elle est animée par un collègue marocain qui est président d'université, Monsieur Bouami. Ils se sont réunis dans la foulée de la réunion inaugurale à Toulon l'année dernière. Mais bon, pour l'instant, elle a un petit peu de mal à concrétiser ses projets. Donc on attend vraiment que 2012 soit l'année de la concrétisation des projets de cette communauté thématique, sachant qu'il y a déjà des partenariats assez forts entre des institutions du Nord et du Sud pour réfléchir à des parcours communs ou à des constructions de formations communes. Alors, la communauté thématique en droit, qui est animée par Yann Tanguy. Vous connaissez bien Yann Tanguy, c'est l'ancien président de l'université de l'UNT UNJF, l'université de droit. Et Yann Tanguy, qui a d'ailleurs été un des acteurs pratiques et opérationnels de la concrétisation de la fondation Diomède, hein, c'est lui qui a travaillé sur tous les statuts, règlements intérieurs, tous les aspects juridiques. Donc il a fait un énorme travail. Et Yann souhaitait vraiment s'investir dans cette communauté thématique autour du droit. Et des actions étaient prévues en 2011. C'était programmé, c'était planifié, c'était dans les agendas. Et puis début 2011 est arrivé dans les pays du Sud les révolutions que vous avez connues. Et donc voilà, on n'a pas réussi à faire vivre cette communauté thématique parce que nos collègues tunisiens et même marocains avaient d'autres soucis dans leur agenda 2011. Donc c'est... On espère vraiment que 2012 va être l'année où les travaux vont pouvoir commencer parce qu'il y a effectivement des contacts importants entre des juristes français dans les facultés de droit en France et des juristes des pays du Sud. Donc il y a une vraie volonté maintenant, reste à la concrétiser. La communauté thématique santé est animée par le responsable, l'un des responsables de l'UNT de médecine. Ils ont, entre le Nord et le Sud, depuis longtemps, à partir de l'UNT de médecine, des relations étroites avec un certain nombre de facultés de médecine, aussi bien en Algérie, au Maroc qu'en Tunisie. Donc Iomed est le lieu autour duquel ils peuvent se fédérer. Et à Tunis, il y a quelques mois, au début de cette année, il y a eu une réunion de la communauté thématique, tout au moins de toute la partie tunisienne. Et donc, ils ont commencé à construire des projets qui vont pouvoir vous être présentés dans les prochains mois. Voilà. Donc, ces communautés thématiques, elles ne vont vivre et progresser que si tout un chacun s'en saisit. Ça vaut évidemment pour les UNT, mais ça vaut aussi pour les universités partenaires de Iomed. Donc, tout est ouvert. Nous avons un comité exécutif vendredi prochain. À l'issue de ce comité exécutif, nous publierons l'appel à projet. Si vous avez des idées, des envies, des initiatives, et tout particulièrement, évidemment, si Onège veut s'impliquer dans certaines de ces communautés, voire même sur un sujet parce que vous avez déjà des contacts au Sud, créer une communauté thématique nouvelle, évidemment tout ça est ouvert. Et voilà, longue et belle vie à Iomed qui ne sera rien d'autre que ce que nous en ferons tous ensemble.
Voilà, merci pour cette présentation complète d'Iomed. Je pense qu'il y a peut-être encore quelques questions dans la salle.
À Onège, on a commencé à en parler. Et nous avons déjà quelques contacts entre l'université de Nice, l'université de Montpellier et deux universités marocaines. Et sur le domaine plutôt de l'entrepreneuriat et d'un master de gestion. Et nous avons des financements pour accompagner et... accompagner les collègues, les aider à trouver et à construire ces partenariats et également à monter ces formations en ligne et ces formations qui ont l'avantage, bien évidemment, d'être principalement francophones, même si les traductions sont absolument indispensables. Elles sont francophones et elles nous permettent une vraie présence tout autour de la Méditerranée. Donc, Onège, qui est membre d'Iomed, participera à la diffusion des appels à projets et essaiera de motiver les collègues.
Lorsque vous envisagez des partenariats, c'est avec des seules institutions, d'autres institutions universitaires ou des associations ou des organismes, des entreprises privées ?
Non, on est très ouvert. Il y a un certain nombre d'associations qui sont membres d'Iomed. Par exemple, l'association, il y a une association française de professeurs autour des technologies. J'ai oublié son nom. Elle est membre d'Iomed. Donc, bien sûr que c'est ouvert à d'autres acteurs que les universités. Disons que il est évident qu'on ne donnera pas de subvention à une structure qui n'est pas membre. Maintenant, si une structure est membre et qu'elle travaille en partenariat avec d'autres acteurs et que le montage du projet montre que ces autres acteurs, en particulier s'il devait s'agir d'entreprises privées, apportent une contribution au montage du projet, je ne vois pas de raison de ne pas considérer ce projet-là. Mais il est sûr que si des fonds doivent être versés, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent être versés qu'à un adhérent de l'association.
Donc après être allé au Canada, ensuite on a fait le tour de la Méditerranée, on va revenir donc à l'Europe, et principalement des coopérations entre ONEJ et plusieurs projets européens. Alors le premier projet européen que je vais vous présenter, c'est le projet ELEN. D'abord, un tout petit historique sur ce projet. ELEN, c'est un réseau qui a démarré en novembre 2003, suite à une réunion de 8 universités qui avaient été choisies pour leur première implication dans le domaine du numérique. Ensuite, il y a eu une deuxième réunion en février 2004 à Brême. Donc là, on a essayé de trouver les points communs sur lesquels on pouvait travailler. On a planifié stratégiquement ce qu'on pouvait faire ensemble. Et on a démarré notre premier projet européen, donc à Nancy, en 2004. Voilà. Donc c'est un réseau qui est quand même relativement ancien. À la suite de ce premier projet, on a donc continué sur deux autres projets. Le premier projet, c'était l'NTT. Teacher Training, donc c'était la formation des enseignants à l'utilisation des TIS. Le deuxième projet, lui, était LNII. Lui, c'est un projet plutôt sur le modèle économique du TIS et des TIS et du e-learning. Et le troisième projet qui est fini maintenant, c'est un projet qui s'appelle LNTLC. Donc là, l'objectif c'était d'établir un centre dans lequel un entrepôt dans lequel on va avoir un ensemble de ressources liées au TIS, à la formation des enseignants, qui concerne aussi bien les enseignants, les étudiants et aussi les décideurs politiques. Voilà. Donc cet entrepôt existe toujours. Il y a une base de données. Vous pouvez sélectionner. Il y a un moteur de recherche. Donc il y a pas mal de ressources qui sont assez intéressantes. Notamment des guidelines, enfin des guides et des modes d'emploi pour certaines thématiques. Voilà, ça c'est un peu le passé. Maintenant, on a démarré un nouveau projet en novembre 2011. Ce projet, en fait, c'est la continuité des projets précédents. C'est toujours la création d'un réseau pour la promotion des TIS et des médias numériques. Alors, dans ce projet-là, on va s'occuper et se concentrer sur deux points. Donc, l'utilisation des TIS, toujours. Le développement de compétences, et notamment les compétences transversales. Un petit peu ce qu'avait dit Louise aussi dans la première présentation, c'est-à-dire les difficultés qu'ont les étudiants à apprendre. Hein, ça concerne en fait toutes les compétences transversales. Et l'idée, c'est d'améliorer la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc on revient aussi à la première présentation, hein, où on a parlé un peu des difficultés que rencontraient les étudiants et des abandons dans le premier cycle. Alors, ce projet donc a démarré très récemment. On a commencé par faire un site web. Donc c'est un site web qui est web 2.0, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de possibilités de communication. Donc vous voyez qu'on a intégré directement des Facebook, disons le groupe Facebook LN to Learn. On a aussi des possibilités de calendrier, etc. On a commencé, je vais vous en parler un petit peu, mais les premiers focus group avec les enseignants. Je vais en parler tout de suite après les focus group. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme partenaire dans ce projet? Le premier partenaire, donc, c'est Métide, Donc c'est l'Institut Politecnico de Milan, qui est coordinateur du projet. Et plus 8, je ne vais pas tous les lire tous, vous avez à l'écran, donc 8 autres partenaires, et un certain nombre de partenaires associés, dont des universités membres de Neige, et la MINES, qui est aussi partenaire associé de ce projet. Très rapidement, je vous présente le plan de travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plan de travail de ce projet, on voit qu'on a 3 phases. La première phase, qui en fait concerne l'analyse des pratiques. Alors, cette première phase a commencé depuis quelques mois. Elle va se terminer donc en juillet. Et dans cette première phase, chaque pays va organiser des focus group. Alors, des focus group avec des étudiants, avec des enseignants, ou des focus group mixtes. Et ces focus group seront à la fois dans le secondaire et aussi dans l'enseignement supérieur, principalement ciblé sur la première année de l'université. À partir de ces focus group, on va pouvoir remonter des pratiques qui sont utilisées, notamment donc pour améliorer la compétence à apprendre à apprendre, mais aussi à travers les outils TIS. Alors les principaux outils TIS qui vont être utilisés, on a fait 3 catégories. Une première catégorie qui concerne plutôt les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux par les étudiants, comment ces réseaux sociaux peuvent amener les étudiants à mieux apprendre. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est serious games, vidéos, etc. Et la troisième catégorie, elle est ciblée sur les blogs et les e-portfolios, l'utilisation du blog et e-portfolio. Donc, on va faire des expérimentations sur ces focus group, on va retirer des enseignements et on va centraliser tout ça. Et cette centralisation va donner lieu à un guide d'utilisation de ces outils TIS pour améliorer ses compétences à apprendre à apprendre. Une fois qu'on aura fait ce guide, on va passer à la phase d'implémentation, c'est-à-dire que à partir du guide qu'on aura réalisé, chaque partenaire va mettre en œuvre pendant 1 an et demi, c'est-à-dire voilà, de juillet 2012 à décembre 2013, va mettre en œuvre ses pratiques dans l'université et on va suivre pas à pas l'évolution de cette implémentation. C'est-à-dire qu'on va faire des enquêtes, on va suivre les étudiants, voir s'il y a vraiment une amélioration des compétences, voir avec les enseignants, faire un suivi personnalisé des enseignants, voir comment ils arrivent à améliorer ces compétences-là. Et dans la dernière phase, on va réunir donc tout ce qu'on a appris de cette implémentation et on va établir ce qu'on appelle des recommandations pour donc pouvoir implémenter, pour dans n'importe quelle université, pouvoir implémenter ces outils et comment les implémenter. Les prochains événements donc dans ce projet, ce sont donc des focus group qui sont en train de se réaliser en ce moment, en France et dans toute l'Europe. Le premier focus group, on a des très bons résultats. Les étudiants sont très très motivés, donc ça donne des choses qui vont être, à mon avis, assez intéressantes. On va réaliser un forum d'échange de pratiques qui va être organisé parallèlement à la conférence annuelle d'IDEN à Porto. Donc vous êtes invités, bien sûr, à y participer. Et ensuite, on aura une université d'automne, donc en octobre 2013, dans le cadre de la conférence Open Classroom d'IDEN. Donc je vous ai laissé l'adresse du site du projet. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le projet ou si vous êtes intéressé. Oui.
Comment vous allez identifier les difficultés des étudiants pour voir au bout de la ligne s'ils ont amélioré? Parce que pour que ce groupe, les étudiants vont identifier certaines choses. Est-ce que vous allez retenir ces aspects-là de ces étudiants-là ou si vous allez faire en sorte que les étudiants se reconnaissent et vont faire un apprentissage? Comment vous allez... J'ai un peu de misère à voir comment vous allez, à partir de ce que vous avez appris dans les focus groups, desservir ces étudiants-là pour voir s'il y a eu apprentissage.
Alors là, c'est dans la phase d'implémentation. En fait, on va faire un suivi régulier et on va faire des mesures, en fait, par système d'enquête ou d'entretien avec les étudiants.
Vous allez au moins au départ savoir ce qu'ils ont comme difficulté pour savoir à la fin qu'est-ce que vous avez réglé, non ? De ces étudiants-là, si vous ne savez pas ce que c'est au départ, comment pouvez-vous mesurer à la fin s'ils ont réglé Je pose la question, ça m'intrigue, là.
Oui, parce que, a priori, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir comparer vraiment l'apport, hein. Il faudrait avoir un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe sur lequel on fasse la même étude, mais qui n'ont pas utilisé ces outils TIS pour améliorer leurs compétences, effectivement. Donc, en France, on a prévu aussi d'avoir un groupe témoin.
Parce que le problème qu'on a dans la... Je me permets d'alimenter, parce qu'on a eu beaucoup de réflexions là-dessus, c'est que le problème qu'on a dans ces difficultés-là, c'est que l'outil en soi peut aider, mais si on ne peut pas évaluer dès le départ le problème, on ne sait pas si c'est parce que c'est l'outil qui a amélioré ou si c'est le contact avec quelqu'un d'autre ou si c'est... C'est important de savoir qu'est-ce que l'étudiant a comme problème au départ et à la fin, qu'est-ce qu'il a réglé. Sinon, une enquête ne va pas nécessairement nous déterminer ce qu'il avait au point de départ et comment il a réglé le problème. Ça va peut-être nous permettre de comprendre mieux comment il a utilisé les technologies, mais même là, si on ne sait pas la difficulté qu'ils ont au point de départ...
Oui, la problématique n'est pas tout à fait la même que la vôtre, en fait. Oui. L'idée, c'est de dire, est-ce de savoir, est-ce que ces outils TIS que j'ai cités, est-ce que ces outils sont vraiment utiles pour améliorer les compétences transversales des étudiants. Voilà. Et si oui, à ce moment-là, comment on peut les mettre en place ? On n'est pas parti du problème, on est parti d'un a priori, en disant que ces outils, normalement, vont améliorer les compétences.
Alors, voilà. Donnez-moi un exemple. Dans Facebook, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura une amélioration, par exemple, de apprendre à apprendre ?
Alors, Facebook, c'est peut-être pas forcément la meilleure.
Non, c'est parce que vous avez donné cet exemple-là.
Oui,
c'est
pour ça que je comprends. Ouais. Non, mais bon, je vais vous répondre sur plus sur le e-portfolio, parce que je suis concentré sur le e-portfolio. Je suis désolé.
Ça, je connais bien ça. Alors, voilà. OK. Le e-portfolio.
Alors, e-portfolio, en fait, ça va permettre à l'étudiant d'analyser un peu ce qu'il a appris, de voir s'il a amélioré ses compétences, de prendre un peu d'assurance, etc. Et on pense que le fait de construire son e-portfolio, c'est-à-dire de regarder ce qu'il a appris, comment il a, etc., ça va lui donner plus, enfin, ça va améliorer sa compétence à apprendre à apprendre. Pourquoi ? Parce que ça va améliorer sa confiance en lui, ça va lui permettre aussi de faire un bilan sur son propre parcours. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que l'outil va intervenir, quoi. Voilà, donc ce deuxième projet européen, c'est MEDEA 2020, donc dont ce projet européen, on a des partenaires aussi dans toute l'Europe, beaucoup de pays européens en tout cas. Et ce projet européen, en fait, il intervient et il va favoriser, si vous voulez, l'utilisation des médias, notamment de la vidéo et de l'audio, dans l'éducation. L'idée, c'est de dire... Nos étudiants sont plongés dans un environnement et dans un monde qui est vraiment riche en médias. Hein. On le voit avec le développement de YouTube, de iTunes, etc. Et il faudrait que nous, on adapte notre enseignement et nos ressources et qu'on les enrichisse en leur donnant, en mettant de la vidéo et de l'audio pour retrouver le même environnement dans lequel ils baignent en général. Alors, dans ce projet... Il y a plusieurs actions. Le premier, c'est le soutien du prix MEDEA. Le prix MEDEA, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, hein, MEDEA Awards. Et aussi la réalisation d'ateliers dans plusieurs pays européens sur des formations qui touchent à la vidéo, à l'audio. D'ailleurs, ONEGE a participé, donc était partenaire, d'une des formations qu'on a fait la semaine dernière, ici même à Nanterre, hein, sur l'initiation, une formation au web documentaire. Donc c'est une nouvelle forme un petit peu de média qui intègre donc de la vidéo. D'ailleurs, il y a quelques participants ici qui ont participé au web documentaire. Hein. Peut-être on pourra leur donner la parole, pour leur donner savoir leurs sentiments là-dessus. Et le dernier point, c'est l'organisation de la conférence Media and Learning à Bruxelles. Donc c'est une conférence européenne où on présente donc les ressources qui ont été, finalistes du prix Medea. Et il y a aussi pas mal de présentations qui sont focalisées sur la vidéo, l'audio. Il y a aussi des choses sur le Serious Games. Hein. Voilà. Alors le prix Medea, donc il y a une interface donc en français, hein, on peut s'inscrire et puis inscrire des ressources. Le prix Medea 2011, on peut participer jusqu'en septembre. Alors vous avez la possibilité aussi de regarder les cas hein, qui ont été primés les années précédentes, les études de cas. Et vous avez aussi ici la liste des liens, notamment comment se connecter sur Media Awards hein, pour le prix Media. Qui peut participer au prix Media ? C'est pas seulement l'enseignement supérieur, hein, c'est ouvert depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est ouvert aussi à la formation professionnelle. Il y a plusieurs prix. Il y a des prix pour, par exemple, les non-professionnels. Ça peut être, par exemple, des étudiants hein, qui réalisent une vidéo. Il y a des prix pour le professionnel. Il y a aussi des prix sur la coopération européenne, hein, c'est-à-dire la coopération, par exemple, entre écoles qui utilisent la vidéo pour coopérer entre écoles primaires ou écoles secondaires.
Est-ce que tous les produits qui découlent de ce projet-là, primés ou non, sont répartis dans la communauté?
Oui, elles sont. Il y a une. J'en ai pas parlé, mais j'ai pas détaillé, mais il y a une base de ressources de médias. Cette base de ressources, voilà, vous avez le lien ici. Il y a une communauté donc Media and Learning, et dans cette communauté donc il y a un forum, etc. Mais il y a aussi une base de données avec l'ensemble des ressources qui sont partagées par tous les membres de la communauté.
Le projet qui était lauréat l'année dernière, projet Medea,
oui.
De Marie, j'ai oublié
Stevens,
son nom,
Stevens.
Voilà, qui justement, elle, dans une université des Pays-Bas, avait travaillé sur comment améliorer et faciliter l'insertion des étudiants à l'université, comment aider les étudiants à appréhender cet apprentissage qui était nouveau, le travail qui était nouveau, etc., etc. Est-ce que vous avez prévu de travailler avec elle sur votre autre projet, sur le projet Hélène Apprendre à apprendre?
Bien sûr.
Ce serait intéressant, justement, de voilà.
Bien sûr, j'ai fait le lien tout de suite, hein, évidemment. Hein. Donc, si vous voulez, dans le projet Hélène to Learn, on a essayé de recenser, des ressources, des études de cas dans les différents thèmes, hein, e-portfolio, vidéo, etc. Et j'ai recensé, évidemment, la ressource qui a été réalisée par Marion Stevens, qui est très, très, très bien faite, d'ailleurs, avec une bonne analogie entre le labyrinthe et les difficultés qu'un étudiant retrouve dans son parcours universitaire.
Vous allez réutiliser cette même vidéo ?
Oui, bien sûr. Oui. Oui, on va la réutiliser. En tout cas, on va la proposer aux étudiants dans le projet. Alors, je vais vous présenter là, peut-être un peu plus rapidement deux projets européens auxquels on participe. Et on va certainement avoir besoin du soutien d'ONEGE. Hein, d'ONEGE et aussi certainement de ANSIA, hein, l'association... Ancien. Alors le premier qui vient de démarrer, donc c'est un projet européen qui est coordonné par l'Université College of London, hein, avec des membres partenaires qui sont plutôt spécialisés dans la vidéo. Les objectifs principaux, en fait c'est un constat qu'on se fait, c'est que la captation de cours en vidéo se généralise. Hein. Les podcasts, il y a des amphithéâtres qui sont... équipé en multimédia, on utilise iTunes, on utilise des services de streaming vidéo, etc. Donc ça généralise. Par contre, est-ce qu'on utilise au mieux toutes ces possibilités de vidéo? Est-ce qu'on les exploite au mieux? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. L'objectif du projet, c'est justement, dans un premier temps, de recenser les pratiques existantes, et notamment, bon, je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques, mais au moins des pratiques existantes de captation de cours qui change un peu, ce qui pourrait changer un petit peu de la captation traditionnelle, séquentielle, qui est un petit, et d'avoir des côtés un petit peu innovants d'utilisation de la vidéo. Et à partir de cette analyse de pratique, donc c'est là qu'on va peut-être avoir besoin de neige et besoin de ANSIAS, c'est qu'on va certainement faire une enquête dans ce projet pour essayer de recenser ces pratiques existantes. À partir de ce recensement qui va se faire sur donc tous les pays européens, on va proposer donc des modèles pédagogiques qui seront disponibles pour les enseignants sur cette base-là. Alors des modèles pédagogiques à la fois de diffusion, de captation, afin d'utiliser au mieux ces outils. Le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle Power Up. Donc avec c'est pareil, on a un coordinateur, c'est l'université de Leicester, en Angleterre. C'est un projet qui, lui, s'intéresse plus aux ressources d'éducation libre, Open Education Resource. Dans ce projet-là, l'objectif, c'est donc d'avoir un inventaire global et une revue complète de toutes les initiatives, de retrouver donc les ressources, les initiatives les plus pertinentes, donc soit à un niveau national ou même à une plus grande échelle au niveau international. Alors là, je pense que là, c'est un cas typique, en tout cas en France, on va utiliser donc les initiatives des UNT, hein, parce que ce sont bien des ressources d'éducation libre. Hein. Et ensuite, on va produire donc une série de rapports nationaux hein, qui mettent en exergue donc les politiques nationales hein, et qui favorisent donc l'adoption de ressources éducatives libres. Et on va produire 3 papiers, c'est des recommandations politiques hein, au niveau de l'Union européenne. Hein. Un plus pour les universités, pour les établissements scolaires et un pour les organismes de formation. Donc l'objectif, c'est de stimuler le dialogue entre les différents secteurs d'enseignement. On a, à travers la mise en place d'un comité consultatif international, de comparer donc les constats qu'on a fait en Europe avec des initiatives en dehors de l'Europe, de créer un manuel en ligne pour les recommandations et les pistes d'action, et d'adopter des recommandations politiques européennes aux différents contextes nationaux en produisant 8 dossiers de recommandations.
Oui, donc c'est de là, en fait, vous faites des papiers de recommandations à un niveau institutionnel et politique, en fait.
Voilà, exactement. Ouais. Par rapport à une... disons, une analyse de ce qui est de l'existant.
Sur la problématique des ressources libres, il y a toute une problématique qui est... moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à appréhender autour du droit et autour de la protection du droit d'auteur et des réglementations qui sont visiblement très différentes d'un pays à l'autre. Il se trouve qu'avec des collègues de Strasbourg, on était à Oxford il y a quelques jours, dans un groupe de travail de la LRU avec différents partenaires européens, et on se rend bien compte que le sujet était justement sur Open Educational Resources, et quand on est confronté à ces problématiques de la protection de la production intellectuelle, il y a une problématique internationale qui rend les choses encore plus complexes. Donc dans les recommandations sur lesquelles vous allez travailler, sur quel sujet allez-vous travailler, et est-ce que celui-là est un sujet d'attention particulier? Parce que je pense que c'est un frein important.
Alors, moi, je ne suis pas engagé dans ce projet-là, mais je pense que dans les recommandations, il y aura à la fois des aspects juridiques qui vont être abordés. Ça me paraît évident, parce que c'est vrai que la réglementation en France n'est pas la même qu'en Angleterre, et pas la même que... Ouais, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça va être pris. Mais après, il y a aussi des recommandations plutôt pédagogiques, et puis des recommandations aussi techniques. Donc ça va balayer l'ensemble des préoccupations. Quoi.
Est-ce que c'est un projet exclusivement anglophone? Parce que j'ai peur que nous soyons peu présents dans toute cette réflexion. Est-ce que, même le choix au niveau canadien d'utiliser Athabasca, je pense que le fait français ne sera pas là. Alors, au niveau du Québec, au niveau de tout ce qui se fait du côté francophone, alors c'est comme un choix un peu orienté. Enfin, le sentiment que j'ai, mais vous pouvez tout à fait me reprendre, mais j'aimerais bien que le fait, enfin, je ne sais pas, même si le fait français, jusqu'à quel point sera pris en compte, parce que même la définition de ressources éducatives libres, il y a des différences entre le canadien anglais et le canadien français. Alors, où est-ce qu'on va se situer? Est-ce qu'on a un vrai répertoire? Parce que, bon, on sait qu'il s'est fait beaucoup de choses sur les ressources libres au Canada, mais juste de la façon d'indexer du côté anglophone, on retrouve presque pas de ressources francophones parce que la façon qu'ils indexent pédagogiquement, on s'y retrouve pas du tout, tandis que nous, on indexe de façon pédagogique du point de vue de la méthode d'enseignement, du point de vue de l'apprentissage. Eux, ils indexent du point de vue de l'outil. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se retrouver. Alors, sur quoi ils vont s'appuyer pour... est-ce que, en d'autres mots, le fait français serait-il là?
Mais justement, c'est un projet qui est quand même assez anglophone. Et je suis censée, moi, représenter toute la partie francophone dans ce projet. Et ça doit être diffusé tout à la fin, les résultats, par le biais de l'UNESCO. Et vous avez des collègues de l'Université d'Athabasca qui participent à ce projet. Et ils ont l'air de considérer que c'est vraiment une grande nouveauté qu'il y ait quelqu'un qui représente la francophonie. Et ma mission, c'est justement de faire le tour de tout ce qui est francophone, que ce soit à Québec.
Athabasca, c'est anglophone.
Oui, mais eux ne s'occupent pas de ce que moi je vais faire dans le projet. Et ma partie, la partie francophone. D'accord ? Et là, on pourra faire apparaître justement votre travail. Alors, ils doivent nous fournir un modèle à discuter de description des EOR. Mais ça n'est pas encore fait. Mais si vous le souhaitez... De toute façon, je vous le transmettrai. Parce que si vous voulez apparaître dans cet inventaire, on va dire.
C'est parce qu'il y a énormément de choses qui se font au Québec et dans le Canada francophone. Et quand on regarde tous ces répertoires, on s'aperçoit que c'est très peu présent. Et il y a quand même des philosophies, des cultures.
Alors, la critique que j'ai eue, mais pas en ce qui vous concerne, c'est quand il y a des réunions à l'UNESCO... Et qu'elles sont en anglais, ils voient zéro français, je cite. Hein. Et moi, j'ai dit, quand on fait des réunions en français, on voit zéro anglais. Hein.
Voilà. Bon.
Et cette fois-ci, on a réussi à faire le maillage. Voilà.
Bon, ce que je voulais ajouter, et pour compléter ce que vient de dire Gérard, c'est que ONEJE accompagne des projets européens. Ces projets sont proposés souvent au niveau de l'Union européenne et notre... champ d'intervention naturel, c'est déjà l'Europe, c'est la francophonie et c'est la Méditerranée. Alors aujourd'hui, on a pu balayer plusieurs programmes qui couvrent ces différents champs. C'est vrai qu'on doit être présent, on doit être le plus souvent présent au niveau européen parce qu'on a un message à apporter, on a une présence à tenir. Et cette présence, chaque université, chacun des membres ne peut pas la tenir seul. Et une UNT comme ONEJE, ça a la particularité, la force, la possibilité d'être représenté et de représenter en même temps 15 universités membres dans des instances, dans des projets qui sont sinon très fortement influencés effectivement par d'autres pays. Effectivement, la langue de travail est toujours l'anglais parce que c'est la seule langue partagée par les différents pays européens, quand on travaille avec des Slovaques ou avec des Polonais ou même avec des Espagnols et des Italiens, dès qu'on est 7 ou 8 pays, la seule langue possible, c'est l'anglais. Mais nous avons, nous aussi, une culture, un mode de pensée, des valeurs à défendre. Donc on les défend à travers ces programmes européens. Et je voudrais vous dire que ONEJE est là aussi pour vous aider à monter des projets, des programmes européens, comme on est là pour vous aider à monter des partenariats en Méditerranée et comme on est là aussi pour ouvrir des portes à travers la francophonie avec le Québec et avec d'autres pays d'Afrique. Alors j'espérais avoir le Togo parmi nous. Bon, la collègue n'a pas pu traverser les frontières, il y a eu un obstacle. J'espérais, on a des contacts avec d'autres pays à travers de l'UNESCO et à travers d'autres instances. On participera, comme on l'a dit hier, à e-learning Africa en mai au Bénin. Donc ce sont là des enjeux, des pistes où nous sommes, nous ONEJE, présents pour vous représenter. Hein. Donc on est là pour vous représenter, pour rendre compte aussi aux universités membres de ce qui s'est passé dans ces débats. Vous avez les sites qui sont très très parlants. En général, d'ailleurs, beaucoup des débats sont retransmis ou transmis en différé. Hein, donc, il y a un certain nombre de messages que nous pouvons porter pour vous. Voilà. Donc, merci.